Oui, ça va, merci. Oui. Nous venons de terminer en disant que, évidemment, la sanctification, la sainteté se rapporte avant tout à Dieu et aux trois personnes divines, non seulement au Père, mais aussi au Fils, à son image, son Verbe et à l'Esprit Saint. Mais il y a un troisième aspect tout aussi important et, à la limite, j'ai envie de dire presque plus important encore de la sanctification et de la sainteté, et celui-là nous concerne encore plus directement. La sanctification du nom ne se rapporte pas simplement aux trois personnes divines, mais aux personnes humaines. Et on pourrait dire, en paraphrasant le début de notre Père, que ton nom soit sanctifié par nous et en nous. Pas simplement par Dieu lui-même. Car au fond, Dieu n'a pas besoin de manifester son nom, si ce n'est dans une relation d'amour qu'il noue avec les êtres humains. Il faut donc d'abord prendre conscience et reconnaître la sainteté de Dieu qui nous dépasse infiniment, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, mais aussi, et c'est l'autre aspect, le dernier aspect que je voudrais souligner, avant de passer à la phrase suivante, cette sainteté nous est communiquée intimement. D'une part, elle nous dépasse infiniment et elle nous est communiquée intimement. Beaucoup de personnes qui ne sont pas nécessairement éveillées à la présence de Dieu et à sa sainteté pensent que Dieu est loin de nous, abstrait, indifférent. Vous savez que dans l'histoire des idées en Occident, Dieu s'est éloigné progressivement de l'homme jusqu'à devenir le grand horloger au XVIIIe siècle, c'est-à-dire quelqu'un qui a réglé les choses une fois pour toutes au départ, comme un spécialiste suisse, et puis qui s'est retiré. Ça ne le concerne plus directement. Et bien ça, c'est vraiment une idée complètement tordue et complètement fausse du Dieu d'amour qui apparaît dans la Bible, et en particulier dans la personne du Christ. Le patriarche Hénouda, encore lui, écrivait à propos de ces deux attitudes qui sont d'une part l'oubli de Dieu et d'autre part l'absence d'ouverture à la révélation du Père par le Fils. Il écrivait ceci, parce que des millions de personnes ne descendent jamais dans cette profondeur céleste et que nous-mêmes nous le faisons si peu, nous prions pour la sanctification du nom. Quelle souffrance de savoir que la plupart des hommes ne connaissent pas le trésor qui les habite et ne goûtent pas au véritable bonheur. C'est le Fils incarné en Jésus-Christ qui vient le révéler et le faire connaître. Comme nous le disions tout à l'heure, la sanctification du nom divin suppose que Dieu soit nommé par son nom, c'est-à-dire qu'il soit connu et qu'il soit reconnu, et qu'on lui donne aussi la place qui doit être la sienne dans notre vie, c'est-à-dire non pas une place périphérique, mais la place centrale, la place essentielle, la première place, au centre de notre être, de nos pensées, de nos actes, de nos paroles, comme les faisaient d'ailleurs les premiers chrétiens. Nous avons déjà abordé un petit peu tout à l'heure, évoqué plutôt les actes des apôtres, mais nous voyons les premiers chrétiens, non seulement au premier siècle, mais dans les siècles suivants lors des persécutions, qui sont totalement habités par le nom divin et prêts à donner leur vie au sens figuré, mais aussi au sens propre, pour Dieu et pour le Christ. Et je cite à nouveau Amba Chenouda, « Le chrétien est plongé, immergé dans l'amour. C'est donc par tout son être qu'il doit sanctifier le nom. Quand on lit les actes des apôtres, on voit que les premiers chrétiens faisaient tout au nom de Jésus. Leur vie était vouée au Saint-Nom. Il était pour eux une force réelle et un soutien puissant au sein du quotidien. D'où cette joie extraordinaire qui rayonne partout dans ces textes et qui est vraiment la tonalité d'Église primitive. Le Saint-Nom les avait libérés de toute angoisse et ils allaient dans l'arène en chantant la gloire de Dieu qui les avait visités. C'est pourquoi nos pères se réjouissaient de répéter le saint nom des milliers de fois le long de la journée. Nous avons évoqué tout à l'heure la prière de Jésus, c'est l'invocation du saint nom des milliers de fois par jour. Invoquer le saint nom du Père, invoquer le saint nom du Fils, Jésus, et invoquer le saint nom de l'Esprit Saint, sans les séparer. En nous mettant consciemment dans la dépendance du Père, du Fils, du Saint-Esprit, dans leur sillage, dans leur présence. Se reconnaître dépendant. Je vous rappelais là, en mars dernier, que la filiation du Fils ne s'arrête pas au Fils éternel, c'est-à-dire à Jésus, mais elle nous concerne, nous devenons les fils de Dieu. Et le Christ le répète à de nombreuses reprises, que nous sommes devenus des fils. Et devenir fils, qu'est-ce que c'est exactement, fils ou fille? C'est reconnaître sa dépendance, se mettre dans le sillage de reconnaître la paternité, l'accepter, s'en réjouir et s'en enrichir. Mais la sanctification du nom, je vous le disais maintenant il y a deux minutes, ne se limite pas à invoquer et à honorer le saint nom, trois fois saint, par des paroles, des prières ou des rites, comme nous le faisons dans les offices, malgré toute la richesse et la profondeur de ces rites et de ces paroles. Elle implique essentiellement la transformation profonde de nous-mêmes. Nous y reviendrons tout à l'heure quand on parlera du royaume. Puisque nous sommes appelés à la sanctification personnelle, à la sainteté, Dieu désire partager sa vie, c'est-à-dire sa sainteté, sa gloire, son rayonnement avec nous. La sanctification, écrit Mgr Jean, est la communication de la sainteté de Dieu. Nous sanctifions les dons, nous sanctifions notre vie. En implorant Dieu que nos vies soient sanctifiées, nous formulons la requête la plus audacieuse que l'on puisse imaginer. Nous avons en effet l'audace de désirer que la sainteté, qui est contemplée avec stupeur par les armées angéliques, la pureté, la splendeur de Dieu, se manifeste dans notre univers et se communique à nous. C'est pourquoi la pénitence et la purification sont nécessaires sous peine d'être brûlées. Rappelez-vous la réaction d'Isaïe quand il perçoit la présence de Dieu dans le temple, il perçoit aussi son impureté et les chérubins ou les séraphins, je ne sais plus, vont s'approcher de lui avec un charbon ardent qu'il pose sur ses lèvres.
C'est
ah justement, ah ben, c'est bien tombé. Et donc Isaïe est purifié et capable de supporter la présence divine. Mgr Jean continue, que ton nom soit sanctifié demande donc que la majesté de Dieu se transmette, transforme, transfigure le monde comme elle transfigura même les habits de notre Seigneur sur le mont Tabor. Et Mgr Jean, à la suite de ce texte, attire l'attention sur une attitude antinomique dans la sanctification du nom par nous et en nous. À la fois, la sanctification et la gloire que nous renvoyons à Dieu nous tirent vers le haut en mettant en évidence la transcendance divine. Mais aussi, elle nous intériorise, nous fait descendre dans le plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire dans notre cœur où Dieu peut établir sa demeure. Dans notre vie spirituelle, ce qui est important, d'après Mgr Jean, c'est de garder un parfait équilibre entre ces deux mouvements complémentaires, extérieur, intérieur, haut, bas, transcendance, immanence, manifestation ou expression par des mots et silence. Car il n'y a pas de montée sans descente, comme vous le savez. On ne commence pas par monter, on commence par descendre dans la vie spirituelle. D'où l'humilité si importante. Il n'y a pas d'extériorité sans intériorité. Ou sinon, les mots sonnent creux, comme des cymbales qui retentissent, nous dit saint Paul. Et il n'y a pas de transcendance de Dieu sans immanence. Et c'est là quelque chose de tout à fait extraordinaire et de particulier à notre foi chrétienne, c'est que nous confessons que Dieu est totalement transcendant par nature et totalement immanent puisqu'il s'incarne et nous communique ses énergies divines. Et donc, nous n'avons pas l'attitude, par exemple, des musulmans qui renvoient Dieu vers le dessus seulement. Nous avons aussi cette attitude d'intériorisation et d'accueil de la plénitude divine en nous, transcendance, immanence. Et nous pouvons, dit Mgr Jean, tomber ou bien dans le ritualisme, qui est l'attitude, nous sommes tournés uniquement vers la transcendance, vers le haut, et nous sommes quelque part désappropriés de nous-mêmes, ou bien dans un excès de mysticisme, c'est-à-dire nous rentrons en nous-mêmes de plus en plus profondément et nous n'extériorisons plus, nous n'exprimons plus les choses. Voilà le texte où il explique ça. Tous les textes que je vous ai cités de Mgr Jean se trouvent dans le livre qui s'appelle « Technique de la prière ». Deux tendances dominent la religiosité humaine. Et il dit, je dis religiosité. L'une conçoit spatialement la religion. Dieu est en haut et nous en bas. Et en priant, nous nous élevons vers lui. L'autre tendance conçoit la religion à l'intérieur. Dieu est en nous, contraire à ce qui est extérieur. L'enfer est le sous-sol, le monde inférieur. Si vous demeurez avec les mystiques dans la seule conception intériorisante, ou si vous ne quittez pas la vision extérieure des hauteurs, l'autre tendance, vous tomberez soit dans une mystique incomplète, soit dans une piété extérieure. Le mystique et l'homme pieux, pris séparément, sont incomplets. Le chemin véritable n'est point partagé. Celui qui prie réellement s'intériorise, et s'intériorisant, il s'élève. L'attitude chrétienne précédant la prière consiste certes à se placer devant Dieu, mais aussi à abandonner le monde extérieur et à entrer en soi. Ne nous laissons pas entraîner à la superficialité ou à un mysticisme incapable de comprendre le sens cosmique et universel de notre religion. En nous dégageant des couches inférieures de notre être intérieur, nous retrouvons les cieux et du même coup, notre âme monte vers les hauteurs. Je trouve ce texte vraiment très, très important, très riche à méditer, à reprendre chez vous. Alors, troisième aspect de la première demande, que ton nom soit sanctifié, c'est le verbe « soi ». Je ne sais pas si ça vous a déjà frappé, mais nous ne demandons pas à Dieu « sanctifie ton nom » et nous ne disons pas à Dieu « nous sanctifions ton nom ». Nous employons une tournure impersonnelle « que ton nom soit sanctifié », c'est-à-dire le subjonctif, c'est-à-dire un souhait, une demande. On ne dit pas à Dieu. Oui, je viens de le dire. Donc c'est une tournure neutre qui, en réalité, n'est pas là par hasard. Rien n'est là par hasard dans cette prière. Ça permet aux deux sens, aux deux directions, de rester ouvertes et de se déployer. Et quelles sont ces deux directions? D'une part, Dieu se sanctifie, manifeste sa sainteté, sa gloire, ça vient de lui. D'autre part, nous le sanctifions, nous l'honorons, nous le bénissons, nous le prions. Et donc ces deux mouvements se rencontrent dans cette tournure, soit sanctifié. Deux sens. Et c'est Jean Chrysostome qui, le premier, je pense, avait relevé cette particularité du Notre Père. Il écrit « Vois comme l'Évangile s'exprime avec justesse. Il ne dit pas « Père, sanctifie ton nom en nous » de peur que Dieu ne paraisse sanctifier lui-même dans les hommes et qu'ainsi il ne fasse acception de personne. » Ce qui veut dire que l'initiative viendrait uniquement de Dieu, c'est lui qui fait tout le travail, et il choisit à la limite les personnes dans lesquelles il sanctifie son nom. Vous voyez, un mouvement unilatéral du haut vers le bas. Et Jean Chrysostome poursuit, « Mais il ne dit pas non plus « sanctifions ton nom », de peur que ne paraisse venir que des hommes la sanctification de Dieu. Il a employé une formule ambivalente et impersonnelle. Donc le Christ emploie une formule ambivalente et impersonnelle, que soit sanctifié. En effet, de même que l'homme ne peut faire le bien s'il n'a pas l'aide de Dieu, ainsi Dieu ne réalise pas le bien dans l'homme si l'homme ne le veut pas. Et voilà une magnifique illustration de la synergie entre le mouvement de Dieu, l'action de Dieu en nous et hors de lui-même, et notre action personnelle vers lui. Et je vous propose pour terminer, comme je vous le disais tout à l'heure, prenez chaque phrase et développez-la, laissez résonner en vous longuement. J'ai rédigé un petit texte qui paraphrase la première demande, Père, que ton nom soit sanctifié, et je vous propose de la mettre en face de l'icône. Donc c'est la page 2 de ce que nous avons dit tout à l'heure. Père, que ton nom soit sanctifié. Père céleste,
incompréhensible, inaccessible, et pourtant je te fais connaître par ce visible monde, l'étoile de ta sainteté, qui dévoile et dévoile sa présence. Tu te fais connaître à nous par la révélation de ton Fils bien-aimé et de ton Esprit Saint. Tu te révèles comme Père et Créateur, Saint et Source de toute sainteté. Tu dévoiles ton visage qui est celui de l'amour. Tu donnes tout ce que tu as et tout ce que tu es au Fils et à l'Esprit. La sainteté règne sur le visage de Jésus, dans l'image parfaite. Tu nous communiques ta sainteté par le corps précieux de ton Esprit. Tu répands sur nous, tes enfants, ta grâce sanctifiante. Cette lumière qui vient de toi, comme dans des vases d'argile, fragiles et forts, nous la portons dans notre corps, notre âme et notre esprit, quand nous ouvrons notre cœur à ta présence aimante. Nous sommes porteurs de la sainteté qui est la vie elle-même, et nous pouvons la faire régner parmi nos frères et sur le monde créé, comme un feu issu de toi qui brûle le sens de consumer. Comme une source jaillissante qui déborde sans s'épuiser. Le feu de l'Esprit de ton Fils Jésus est venu allumer sur notre terre. L'eau vive de la source paternelle qui est de la terre tout être assorti. Père très saint, que ta sainteté, ta gloire et ta présence éclatent et se manifestent sur la terre comme au ciel. Qu'elles y soient reconnues et célébrées, comme elles le sont par les anges et les saints, dans ton royaume. Amen.
Et voilà, ce dernier mot dans ton royaume va nous conduire à la deuxième demande, à la deuxième phrase du Notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. J'ai repris la version grecque parce qu'il est intéressant de souvent repartir des mots, soit hébreux, comme André nous le disait l'autre jour, soit grec, puisque, vous le savez, tous les évangiles que nous avons conservés sont écrits en grec. Et le terme grec ici, enfin la phrase grecque, c'est « el teto e basileia sou ». Le mot le plus important, c'est « basileia ». Et ce terme en grec a trois significations. Nous avons trois mots français pour le même mot grec « basileia ». Et c'est le mot « règne »,« royaume » et « royauté ». Donc nous pouvons dire « que ta royauté soit manifeste » ou « que ton règne vienne ou arrive » ou « que ton royaume advienne ». C'est exactement la même traduction. Donc ne nous contentons pas de penser au règne, mais pensons au royaume, à la royauté et au roi qui est derrière tout ça. C'est d'ailleurs la même chose en araméen, c'est le mot « malkut » qui est exactement l'équivalent du mot grec « basileia » qui signifie le règne, le royaume, la royauté. Et donc quand le Christ, qu'il le dise en araméen ou qu'il le dise en grec, parle de « basileia » ou de « malkut », c'est les trois réalités qui sont nommées. Je rappelle ces évidences pour garder la souplesse et la richesse du sens de cette deuxième demande, qui vise à la fois le règne, le roi, le royaume et la royauté. Et donc ne nous enfermons pas dans une seule signification. Ouvrons les choses. Nous pourrions dire en développant cette phrase que le Seigneur Dieu, le roi céleste, règne sur son royaume, sur la terre comme au ciel. Voilà déjà un premier développement de cette petite phrase. Nous sommes ici en face de plusieurs réalités que nous allons aborder, et celle qui me paraît la plus essentielle, parce qu'elle revient sans cesse dans le Nouveau Testament, c'est celle du royaume. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a des gens qui s'amusent à compter le nombre d'occurrences, c'est-à-dire de retour d'un mot, par exemple dans la bouche du Christ ou la bouche du prophète Jérémie, etc. Eh bien, le mot royaume, tenez-vous bien, apparaît 130 fois dans le Nouveau Testament, dont 50 fois dans la bouche du Christ dans l'évangile de Matthieu, ce qui est énorme, c'est gigantesque. Et on peut donc dire, et on l'a dit d'ailleurs, que le royaume est le thème central de l'enseignement du Christ. Et nous en avons déjà l'illustration dans les Béatitudes, dans ton royaume, souviens-toi de nos seigneurs, où nous citons le royaume encore deux autres fois, nous en y reviendrons tout à l'heure. Les Béatitudes d'ailleurs qu'on appelle, vous le savez, la charte du royaume, qui est un condensé, un résumé de l'enseignement essentiel du Christ. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, qui d'ailleurs fait écho à cette parole du larron sur la croix qui se tourne vers le Christ et qui lui dit « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Et c'est d'ailleurs la prière que nous disons aussi avant la communion. Cette phrase est reprise dans notre prière. Alors que signifie cette deuxième demande du Notre Père, cette évocation du royaume ? Comme les autres termes de la prière, ce mot royaume suscite beaucoup de questions. D'abord, la première évidente, qu'est-ce que le royaume ? Est-ce qu'on peut connaître ce royaume ? Est-ce qu'on peut le définir ? Deuxièmement, qui est le roi ? Ça, apparemment, vous dites, ah oui, ça je sais, c'est plus facile apparemment, mais il n'y a pas qu'une réponse, vous allez voir. Alors, quand adviendra ce royaume et où adviendra-t-il ? Comment y entrer? Comment favoriser sa venue? Toutes ces questions-là sont sous-tendues par le mot de la prière « Que ton règne vienne ou que ton royaume advienne ». Mais avant d'aborder les allusions au royaume dans le Nouveau Testament, je voudrais faire un petit retour en arrière, un peu chronologique, une perspective, une rétrospective historique, pour voir si on parle du royaume dans le Premier Testament. Et en réalité, on constate que le thème du royaume de Dieu est ancien, et non seulement spécifique au peuple hébreu, mais à tous les peuples du Moyen-Orient. Et donc il ne jaillit pas dans la bouche du Christ comme une parole tout à fait nouvelle et tout à fait imprévue, mais il plonge ses racines, ce terme, dans l'Ancien Testament. Et en particulier dans la conviction que Dieu, Yod-Hé-Vavé, est le roi qui règne sur son peuple d'Israël. Ça apparaît dès le texte de l'Exode, quand le peuple hébreu va s'installer au pays de Canaan. Je ne vais pas vous citer, il y en a des dizaines, mais par exemple, « Que le Seigneur soit votre roi. Qui est-il ce roi de gloire ?» Ce que nous chantons au rameau. « Le Seigneur Tout-Puissant, c'est lui ce roi de gloire. » Cet extrait du psaume numéro 24. « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, » dit Isaïe dans le texte que je vous ai cité tout à l'heure, « où le Seigneur règne à jamais, » dans l'Exode, etc. Il y a différentes citations que vous retrouverez dans les feuilles dactylographiées. Et la loi elle-même, qui est si importante pour la vie du peuple hébreu, la loi donnée à Moïse, est la manifestation de la royauté divine. Le roi édicte une loi pour son peuple, pour l'amener à vivre conformément à sa vie, à lui, à sa volonté, et à la reconnaissance par le peuple juif de sa royauté. Leur vie quotidienne est totalement régie par cette loi, comme vous le savez, qui émane du Dieu roi, et qui les relie plutôt à lui. Et quand le peuple juif voudra un roi, vous savez que Dieu ne veut pas donner de roi au peuple, puisqu'il est le seul roi. Et il craint, Dieu, et à juste titre, qu'une fois que le roi sera en place, il va se passer des drôles de choses qui vont détourner le peuple du seul roi de gloire, c'est-à-dire Yod-Hé-Vavé. Et pourtant, à un moment donné, il va céder aux insistances du peuple et va donner un roi au peuple. Ce sera le roi David, après le roi Saül, et puis le roi Salomon. Mais vous savez que les rois sont à la fois les représentants du roi des rois, mais aussi ils représentent eux-mêmes. Et très souvent, les rois vont dévier de la bonne route. Et il y aura ce qu'on appelle les bons rois, ce sont ceux qui font la volonté du roi des rois, et les mauvais rois qui s'en écartent. Et les bons rois, je vous assure, ne sont pas du tout majoritaires. Ce qui fait que, à un moment donné, les royaumes, les deux royaumes du nord et du sud, vous savez qu'il y a le royaume d'Israël, le royaume de Juda, deux royaumes séparés, les royaumes vont tomber sous les coups de butoir d'abord des Égyptiens, puis des Assyriens, des Babyloniens. Et la chute de la dynastie du roi David, qui est le roi de Juda, qui va se passer au VIe siècle avant le Christ, a justement pour cause la rupture, la désobéissance des rois à la volonté du seul roi qui est le roi des cieux. Et ça, tous les prophètes vont le rappeler de manière insistante. Mais ces événements dramatiques, comme toute crise, vont avoir un effet positif, c'est-à-dire une nouvelle prise de conscience parmi le peuple hébreu. Et deux thèmes vont apparaître. D'une part, le thème si important de l'attente d'un Messie, c'est-à-dire de celui qui est oint comme le roi l'était, et qui va restaurer Israël dans sa dignité de peuple élu. Ça, c'est le premier thème. Et deuxième thème, qui est plus spirituel, presque métaphysique, c'est l'apparition du caractère, la prise de conscience, je dirais plutôt, du caractère eschatologique du règne de Dieu. Dieu n'est pas fait avant tout pour régner sur la terre, il est fait pour régner dans une autre réalité, un autre royaume eschatologique. Et cela va se manifester très concrètement un siècle avant le Christ et un siècle après lui, par une prolifération d'une littérature qu'on a appelée, à juste titre, apocalyptique. Nous avons des tas de livres d'Apocalypse, celles de Daniel, d'Isaïe, d'Enoch, de Moïse, de Baruch, les psaumes de Salomon, etc., où le roi des rois, le Seigneur, vient juger l'univers. Et donc notre Apocalypse, celle de Saint Jean, se met dans la ligne, dans le fil de ce courant apocalyptique qui a proliféré au premier siècle avant et après le Christ. Et dans ce contexte, on voit apparaître une prophétie célèbre d'Ézéchiel que nous reprenons à certains moments de l'année et que nous évoquons et que le Christ reprendra à son compte. C'est l'apparition du terme « le Fils de l'homme ». Le Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel. Voici la prophétie, Ézéchiel, chapitre 1, verset 25 et suivant. « Par-dessus le firmament qui était sur leur tête, telle une pierre de l'azulite, il y avait la ressemblance d'un trône. Et au-dessus de cette ressemblance de trône, c'était la ressemblance comme l'aspect d'un homme. Au-dessus, tout en haut, je vis comme l'aspect d'un feu et d'une clarté tout autour de lui. C'était l'aspect, la ressemblance de la gloire du Seigneur. Je regardais et je tombais sur mon visage. Et j'entendis une voix. » Et à ce moment-là, Ézéchiel reçoit un message prophétique. On voit donc poindre dans cette apparition apocalyptique du Fils de l'homme sur les nuées l'annonce de l'incarnation du Fils de Dieu, qui s'appellera de préférence le Fils de l'homme. Vous avez remarqué le nombre de fois que Jésus dit de lui, le Fils de l'homme n'est pas venu pour ceci, il est venu pour... Il s'appelle toujours, presque toujours, le Fils de l'homme. Et ainsi se forme progressivement dans la conscience et la pensée biblique la conviction très importante que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, mais qu'il appartient à une réalité future qui est en gestation, qu'il implique une rupture dans l'espace et dans le temps. Notez cependant, il faut nuancer ce que je dis, parce que les avis sont partagés. Vous savez qu'il y a beaucoup de courants dans la Bible et dans le peuple juif, que tout le monde n'est pas unanime. Par exemple, tout le monde ne croit pas à la résurrection qui est annoncée quelque temps dans le livre des Maccabées, quelque temps avant le Christ. Il y a les plus spirituels d'entre les juifs qui pensent que le royaume, c'est l'avènement d'un royaume intérieur qui implique la conversion du cœur rappelée par les prophètes. C'est la tendance prophétique. D'autres vont voir dans le royaume et la restauration du royaume d'Israël une réalité tout à fait terrestre, avec un Messie qui est descendant de la famille de David, d'où l'importance dans la généalogie qui se trouve dans l'évangile de Luc, je crois, hein. Luc ou Matthieu, je crois que c'est Luc, de préciser que Jésus est de la descendance de David. Et c'est cette autre tendance plus terrestre verra la restauration ou espérera la restauration d'Israël dans la gloire terrestre qu'il avait avant l'exil, c'est-à-dire la restauration du royaume de Judée. Et nous voyons toute cette ambiguïté d'ailleurs traverser l'évangile. Très souvent, quand les gens prennent conscience du caractère messianique de Jésus, ils veulent le faire roi. Et ils espèrent qu'il va restaurer la royauté d'Israël. Il y a donc toute une ambiguïté qui traverse comme ça, et on voit chaque fois Jésus qui se dérobe et qui ne veut pas qu'on le fasse roi, on le dit très clairement. Un autre aspect de l'annonce du royaume et des premiers mots de la prière du Notre Père dans l'Ancien Testament, et dans la tradition juive, c'est une prière qu'on appelle le Kaddish. Et c'est une prière qui préfigure de manière très étonnante le Notre Père. Nous sommes, pour le moment, je vous rappelle, en train de trouver les racines de cette prière dans le Premier Testament. Voici ce que dit le début du Kaddish. Que soit magnifié et sanctifié son grand nom, qu'il fasse régner son règne en nos vies, en nos jours, et dans tous les jours de la maison d'Israël. Vous voyez l'analogie, c'est quand même assez étonnant. Alors, le royaume. Maintenant, nous quittons le Premier Testament et le courant biblique juif, à proprement parler. Et nous voyons que le Christ va passer, je dirais, son temps, à tout bout de champ, il va parler du royaume. Il va l'annoncer, mais il va non seulement l'annoncer, il va inaugurer, ouvrir les portes du royaume. Il est frappant déjà de constater que l'annonce de la proximité du royaume se situe dès le début de la vie publique de Jésus et dès l'annonce de sa venue par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui comme vous le savez, est l'apôtre de l'avant, si on peut dire, lui ouvre le chemin par son appel à la conversion. Et qu'est-ce qu'il proclame Jean-Baptiste ? Repentez-vous, mais c'est pas fini, car le royaume de Dieu est proche. Et après l'arrestation de Jean, Jésus va reprendre ce message textuellement à son compte. Jésus reprend exactement le même message. Il disait, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, c'est-à-dire Evangelos. L'Évangile. Ainsi, à la fois Jean le Baptiste, le dernier et le plus grand des prophètes, et Jésus mettent-ils tous deux l'accent sur le repentir lié au mystère du royaume. Et donc, on se rend compte que Jésus, là, inaugure une réalité nouvelle et fondamentale, le royaume, la venue du royaume de Dieu parmi nous. Je vous propose de mettre en évidence ce lien étroit, vital vraiment, entre la réalité du royaume et la vie et l'enseignement de Jésus selon deux axes. Tout d'abord, le premier axe, Jésus évoque constamment le royaume. Il n'arrête pas d'en parler. Mais deuxième axe, encore plus important sans doute, il en ouvre déjà les portes. Il inaugure la venue du royaume par son œuvre, son comportement. Ses actes. Première approche, le royaume annoncé par le Christ. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le thème du royaume est vraiment au cœur de l'enseignement de Jésus. Il en parle tout le temps et sous de nombreuses formes. Et les formes qu'il préfère, ce sont, comme vous le savez, les paraboles, donc les images. Alors que dit-il du royaume et comment y parvenir ? Qu'est-ce que le royaume ? S'il est bien une chose claire, et c'est peut-être la seule qui soit claire dans cette affaire, c'est que le royaume de Dieu est totalement étranger à une conception politique qui, comme je vous le rappelais, traînait dans l'esprit du peuple hébreu depuis quelques siècles, depuis en fait le retour de l'exil. totalement étranger à une conception terrestre, purement terrestre et politique. Et Jésus se dérobe quand on veut le faire roi, comme je vous l'ai dit. Vous trouvez ça dans Saint Jean, chapitre 6. Mais alors, qu'est-il ce mystérieux royaume s'il n'est pas un royaume terrestre? Eh bien, nous allons être déçus, mais vous le savez déjà, le Christ ne le définit jamais de manière simple et claire. Et c'est normal. Comme je vous le rappelais tout à l'heure, quand on parle d'un mystère, on ne peut que l'évoquer en petites touches, par différentes portes, différentes fenêtres, différentes images, mais on ne peut définir le mystère qui échappe à toute formulation, à toute description. Alors Jésus, comme un peintre impressionniste, va évoquer le mystère du royaume par des petites touches colorées qu'on appelle les paraboles. Les paraboles sont des clés d'accès à la fois poétique et spirituelle à cette réalité mystérieuse du royaume. Et je vous invite à ce propos à prendre tout à l'heure et à lire, si vous le souhaitez, attentivement, tout le chapitre 13 de Saint Matthieu qui contient la plupart des paraboles du royaume, que je vais vous rappeler ici en paraphrasant. D'abord, que dit-il du royaume? Eh bien, Jésus va souligner à diverses reprises que le royaume a une valeur inestimable. Et il va le comparer à une perle précieuse. Il le compare aussi à un trésor caché dans un champ. Et il va insister sur le fait qu'il faut le chercher à tout prix. Et ça vaut même la peine, dit-il, qu'on y sacrifie tous ses biens en échange. Donc le royaume n'est pas une chose parmi d'autres. Il mérite qu'on sacrifie tout, y compris sa vie, comme nous le verrons. Il compare aussi le royaume à un filet de pêche qui ramène toutes sortes de poissons. Rappelons-nous qu'il parle à des pêcheurs. Beaucoup d'apôtres sont des pêcheurs, et voilà une image qui doit leur parler. Il va aussi, et c'est un autre registre, comparer le royaume au monde végétal. Et le monde végétal, comme vous le savez, est caractérisé par une croissance lente, secrète, cachée, enfouie dans la terre, comme une petite plante qui est appelée à se développer et à devenir très grande. Et nous avons là plusieurs paraboles qui l'évoquent. D'abord celle du grain de sénevé, la plus petite de toutes les graines qui devient un grand arbre, et cet arbre, dit le Christ, est capable d'accueillir tous les oiseaux du ciel. Et les oiseaux du ciel, c'est tous les hommes, toutes les nations. Il compare aussi le royaume à une graine jetée dans le sol, qui, jour et nuit, germe et croît, sans que le semeur, d'ailleurs, sache comment. Il le dit explicitement. Autre parabole très proche, c'est la parabole du semeur, où la parole de Dieu est comparée à une graine qui germe dans le sol profond, mais à condition qu'elle soit plutôt accueillie par le sol. C'est-à-dire que le sol soit débarrassé de ses pierres, débroussaillé de ses ronces, et qu'il s'agisse d'un sol fertile et profond. Comme vous savez, ce sol, c'est nous, c'est notre intériorité. Et la même image de croissance est employé dans la parabole du levain dans la pâte. Le royaume de Dieu est comparable au levain dans une pâte. Arrêtons-nous un instant sur cet aspect essentiel du royaume annoncé par Jésus. C'est-à-dire l'image d'un organisme qui grandit en silence. Et Jésus le dira, le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici. Où il est là, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et donc, la venue du royaume et le royaume lui-même n'est pas un phénomène extérieur à l'homme, ni spectaculaire, mais c'est un événement lent, discret, intérieur, son éclosion. Le royaume prend donc racine et grandit, mais il faut savoir aussi, et le Christ le rappelle à deux reprises au moins, que cette croissance qu'on peut qualifier de positive, puisque c'est la croissance du royaume de Dieu en nous, est étroitement parasitée et mêlée à une autre croissance négative sur là, et toujours en nous, et c'est la parabole du bon grain et de l'ivraie. C'est-à-dire la présence du mal. Il n'y a pas que la parole de Dieu, il y a la parole de l'autre que le Christ va appeler le prince de ce monde. Il ne veut pas le nommer roi, mais prince, c'est quand même assez équivalent. Il y a donc deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume du malin. Ceci nous concerne intimement, car comme le rappelle l'apôtre Jacques dans son épître, notre cœur est partagé, notre cœur est divisé. Notre cœur, qui est une terre intérieure destinée à recevoir la parole de Dieu, reçoit non seulement la parole de Dieu, mais tout le reste aussi. C'est un grand contenant, notre cœur. Et donc, le malin peut semer, livrer la mauvaise herbe qui croîtra avec le blé de la parole. On peut aussi distinguer trois temps successifs de l'avènement du royaume et du règne. Le temps des semailles, le temps de la croissance et le temps de la moisson. Ce ne sont pas nécessairement des temps chronologiques comme dans notre logique binaire on l'affirmerait, parce que le temps des semailles, le temps de la croissance et même parfois le temps de la moisson peuvent s'entremêler, coexister. Le temps des semailles, d'après la parole de Jésus, c'est la parole divine qui est révélée aux hommes et qui s'implante dans notre terre intérieure. Nous sommes ensemencés par la parole. Le temps de la croissance, c'est le temps de l'Église. Et le temps de la moisson, c'est l'accomplissement du royaume à la fin des temps. C'est-à-dire à la fin du temps historique, tel que nous le connaissons. Parce qu'après le temps, il y aura d'autres temps. La parole du Verbe, je viens de vous le dire, joue un rôle essentiel dans l'apparition et la croissance du royaume. Comme le montrent les paraboles déjà citées du semeur et du grain de sénosé, c'est la parole qui est la graine du royaume. Du moins, il faut une condition, il faut qu'elle soit accueillie par nous. Et nous reviendrons un peu plus loin sur cette réalité essentielle du développement temporel du royaume dans l'histoire et hors de l'histoire. C'est-à-dire du développement méta-historique ou atemporel, c'est-à-dire de l'eschatologie. Mais avant d'approfondir ce thème, abordons cette deuxième approche dont je vous ai parlé tout à l'heure. Non seulement le Christ parle du royaume dans ses paroles, dans ses paraboles, mais il incarne déjà le royaume. Et comment incarne-t-il le royaume? Eh bien, tout simplement par sa manière d'être, sa manière de vivre, par les guérisons, les miracles qu'il opère. Le Christ nous montre que le royaume de Dieu n'est plus une réalité abstraite et lointaine comme ça pouvait l'être dans la première annonce du Premier Testament, mais que le royaume de Dieu non seulement est proche, mais qu'il est déjà là. Et il le dira à ses disciples qu'il envoie en mission pour guérir les malades, on trouve ça dans Luc chapitre 10. Il leur dit « Guérissez les malades et dites-leur « Le royaume s'est approché de vous. » Et il répondra aussi aux pharisiens et aux légistes qui mettent en, vous rappelez, quand ils chassent les démons. On dit, mais par quel pouvoir chasses-tu les démons? Et il leur répond toute une série de phrases, mais je ne vous cite que celle-ci. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, ce qui est le cas, alors le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors le royaume est venu vers vous. Nous allons illustrer cet avènement déjà là du royaume dans l'œuvre du Christ, par sa vie, son comportement, ses gestes, de trois manières. D'une part, les miracles, d'autre part, sa manière même d'être, et troisièmement, par sa résurrection. Parlons d'abord un peu des miracles. Les miracles qui accompagnent l'annonce du royaume en sont des signes avant-coureurs, qui nous dévoilent une chose fondamentale, tout à fait fondamentale. C'est que la réalité matérielle que nous connaissons actuellement, ou que nous croyons connaître, est elle-même transformée par l'avènement du royaume, où, comme dit le Christ, les pierres elles-mêmes crieront. À notre époque, vous savez que les miracles ont mauvaise presse, et beaucoup de gens... Et même beaucoup de chrétiens sont tout à fait gênés par rapport aux miracles. Ils ne savent pas comment en parler. On a l'impression, on est mal à l'aise parce qu'il s'agirait d'une pensée mythique ou magique, donc d'une pensée archaïque qui traîne, mais évidemment tout à fait en désaccord avec notre intelligence extraordinaire que nous avons acquise dans notre, à notre époque au XXIe siècle. Donc, il ne faut quand même pas croire au miracle, comme dit l'expression populaire. Croire au miracle, c'est vraiment prendre les vessies pour des lanternes, c'est être un peu idiot, faire preuve de naïveté et d'ignorance. Or, les miracles sont tout à fait fondamentaux, ce sont des théophanies de l'Esprit-Saint dans la matière. Ils sont évidemment contraires aux lois de la nature telle que nous la connaissons, c'est-à-dire la nature déchue. Mais ils sont des manifestations éclatantes de la puissance du Christ et de l'Esprit-Saint, de la venue du royaume dans notre matière terrestre, corporelle. Par exemple, la guérison d'un paralytique, d'un aveugle né, d'un possédé, la résurrection de la fille Jaïr, la résurrection de Lazare. Tous ces événements extraordinaires ne sont pas mythiques, ne sont pas symboliques, ce sont des événements réels qui entr'ouvrent déjà les portes d'une réalité supérieure, qui dépasse nos connaissances et même notre imagination, qui, hélas, tous deux sont bien limitées. C'est le début de la transfiguration de la matière, exactement comme la virginité, maternité de Marie, la mère de Dieu. Par le miracle, l'homme est placé devant un choix, et nous le voyons très concrètement dans les évangiles, devant l'incrédulité de certains qui ne veulent pas croire au miracle opéré par le Christ. Ou bien qui disent, si tu opères ça, c'est que tu as un démon, ils le croient possédé. Le choix devant lequel l'homme est placé face au miracle, c'est soit de se cramponner à ses connaissances limitées du monde, et donner au miracle, comme je le disais tout à l'heure, une portée simplement symbolique, c'est-à-dire désincarnée, au sens fort du terme, abstraite. Ou bien, l'homme peut s'écrier devant le miracle comme l'aveugle de naissance qui est guéri par Jésus, « Maintenant, je vois. » Et il ajoute, « Maintenant, je crois. » Bon, en tout cas, c'est implicite, Jean chapitre 9. Et ne sommes-nous pas frappés, en tout cas je l'ai été en préparant ce travail, par les paroles dures, très dures, que prononce le Christ, qui sont rapportées par trois évangiles, les trois synoptiques, sur l'incrédulité qui font obstacle au miracle. Et donc à la manifestation déjà tangible du royaume. Lorsqu'il constate par exemple que les habitants de Nazareth, Chorazim, Bethsaïda, Capharnaüm ne croient pas en lui. Et l'évangile dit, il ne put opérer là aucun miracle. C'est étonnant. Le Fils de Dieu rencontre l'incrédulité et ne peut, face à cette incrédulité de l'homme, opérer aucun miracle. Comme si les yeux étaient fermés. Les aveugles ne voient pas, les sourds n'entendent pas. Et d'ailleurs, le Christ va reprendre cette phrase sur Et d'ailleurs, petite parenthèse, vous savez que Il va dire à ses disciples, à vous, il a été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais à d'autres, cela n'a pas été donné. Et c'est pourquoi je leur parle en parabole. Et ça, c'est très étonnant. On se dit, ah ben oui, la parabole, c'est quelque chose qui rend accessible. Et le Christ va dire exactement le contraire. Je leur parle en parabole pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, et qu'ils ne se convertissent pas. Là, on tombe des nues, c'est ça le dit. Bon, on pourra reprendre ça peut-être dans l'échange tout à l'heure, mais cela montre que la connaissance donnée par le Christ à la fois voile et dévoile. Et les deux, voile et dévoilement, ce qu'on retrouve dans notre liturgie, vous savez, le voile, le symbole du voile ouvert et du voile qui se referme, est très très important dans le rite, comme dans les paroles du Christ. Le Christ à la fois est une manifestation éclatante de la gloire du Père, et à la fois un mystère caché, comme dit Saint Maxime le Confesseur. Plus on approche le Christ, et moins on a l'impression de le connaître. C'est tout à fait étonnant. Et c'est dans ses paraboles, il le dit de manière très explicite. Alors il ne vous échappera pas que la première attitude, c'est-à-dire le refus de reconnaître le miracle, l'incrédulité, est l'expression d'une résistance fondamentale, vraiment fondamentale et malheureusement très répandue, c'est le refus d'accepter l'incarnation de Dieu dans la matière, dans notre matière humaine, en d'autres termes aussi, le refus d'accepter la puissance de l'Esprit sur la matière et dans la matière. Je parlais récemment, j'ai revu un ami que je n'avais plus vu depuis des années, et je ne sais pas pourquoi, il est venu dans la conversation, la résurrection. Et il m'a dit textuellement, la résurrection de Jésus, c'est impossible. Donc, je n'y crois pas. C'est QFD. La conversation s'est arrêtée là, ça ne servait à rien d'aller beaucoup plus loin. Or, la foi chrétienne est fondée sur l'incarnation, est fondée sur l'entrée réelle du Verbe divin dans un corps, une âme et un esprit humain. Aucune autre tradition religieuse de l'humanité n'accorde autant d'importance à la matière que la tradition chrétienne et biblique avant elle. Aucune ne magnifie la matière autant en la rendant apte à être transformée, totalement transformée par l'esprit. Et nier la réalité historique concrète des miracles, c'est simplement et purement et simplement nier que le Christ était réellement le Fils de Dieu et qu'il se soit incarné dans notre matière humaine. Ce n'est donc pas du tout anodin. Et donc quand quelqu'un en face de vous parlera des miracles en disant « quand même, on ne croit plus aux miracles à notre époque », je ne sais pas quelle sera votre réaction, mais peut-être vous trouverez une parole inspirée pour lui en parler d'une autre manière. Nous trouvons encore deux autres illustrations du lien entre les signes, prodiges et miracles et la venue du royaume dans deux épisodes racontés par les évangiles. Il s'agit d'abord, comme je vous l'évoquais déjà tout à l'heure, de l'envoi par Jésus des apôtres en mission. Nous le trouvons dans le chapitre 10 de Saint-Luc. Je n'y reviens pas. Et aussi dans ce passage très émouvant où Jean-Baptiste est arrêté, se trouve en prison chez le roi Hérode, et va envoyer à ses disciples trouver le Christ en disant « Es-tu bien celui qui doit venir ?» Lui qui a annoncé le Christ, qui s'est abaissé devant lui, qui l'a baptisé, est saisi d'un doute, je dirais, existentiel ou ontologique. Est-il bien lui le Christ ? Et que va lui répondre le Christ ? Eh bien, justement, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Ce sont exactement les signes de l'avènement du royaume qui avaient été annoncés par le prophète Isaïe au chapitre 35 de son livre. Ça, c'est un premier aspect, plutôt un deuxième, le premier aspect, il l'annonce en parole et en parabole. Deuxième aspect, il l'annonce par les miracles, l'imminence du royaume et le début du royaume, mais il l'annonce aussi, troisième aspect, par tout son être, tout son comportement. Son comportement au Christ, vous le savez, est étrange, déroutant, étonnant, totalement contraire à ce qu'un juriste dirait être le comportement du bon père de famille raisonnable. Vous savez qu'en droit, le comportement du bon père de famille, c'est le critère même pour savoir s'il y a faute ou non dans un comportement. Si le bon père de famille aurait agi comme ça, il n'y a pas faute. Eh bien, le Christ, il est, selon les critères du droit civil, toujours en faute. Ce n'est vraiment pas un bon père de famille. Il est complètement déraisonnable. Et pourtant, le comportement du Christ est celui d'un membre éminent du royaume. D'abord, premier comportement complètement déroutant et aberrant a priori, au lieu d'affirmer la gloire qui est la sienne, de toute éternité. La manière d'être du Verbe incarné est fondamentalement marquée par la kénose, le dépouillement, l'abaissement continuel, une humilité sans limite. C'est un lien étonnant, fondamental, qu'il y a entre l'abaissement, son humilité, et la gloire dont il rayonne. Parce qu'évidemment, il rayonne de gloire, c'est une gloire royale, que j'évoquerai dans quelques instants. Et ce contraste saisissant, antinomique, entre l'abaissement et la gloire, est magnifiquement chanté par saint Paul dans l'Épître aux Philippiens. Lui, donc le Christ, le Fils, qui, existant comme Dieu, s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'esclave. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, souverain, royauté, et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et dans les enfers. Vous voyez ce lien entre l'abaissement et la gloire, la glorification. Le comportement de Jésus avec ceux qu'il rencontre, deuxième aspect, est totalement contraire à notre façon habituelle de vivre et de penser. Le Christ bouleverse tout, il désarçonne constamment ses interlocuteurs. Il renverse l'ordre établi, le respect maniaque de la loi, la dureté de comportement de ceux qui se croient les plus religieux des hommes, c'est-à-dire les pharisiens, ceux qui croient savoir alors que, dira le Christ, leurs yeux sont éteints, leurs oreilles sourdes. Il dénonce, condamne les comportements hypocrites et orgueilleux, l'autosatisfaction. Et par contre, il accueille les petits, les prostituées, les faibles. Et ce comportement du Christ laisse véritablement pantois, sans voix, ses contemporains. Et le Christ nous invite à adopter ce comportement, car il dit, pour hériter du royaume, le royaume, il appartient aux petits-enfants. Et il dira aussi, les publicains et les prostituées vous devancent dans le royaume, ils entreront avant vous dans le royaume. Il dit aussi, celui qui se fait petit sera grand dans le royaume. Bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux les persécutés pour la justice, ils hériteront du royaume. Et donc, par son humilité, sa compassion sans limite, son amour du plus faible, le Christ témoigne de sa dignité royale. Toute l'antinomie de cette attitude à la fois humble et royale, faible et glorieuse, est manifestée lorsqu'il entre triomphalement à Jérusalem. Voilà un épisode très étrange qui contraste avec tout ce que nous avons vu du Christ, qui se dérobe toujours lorsqu'on veut le faire roi. Eh bien ici, il accepte, mais il accepte dans une humilité qui sera marquée curieusement par des retrouvailles, celui de l'âne, plutôt celle de l'âne. C'est une attitude à la fois humble et royale que celle du Christ qui entre à Jérusalem, acclamé par la foule, monté sur le petit d'une ânesse, comme dit le texte, et non sur un char ou sur un cheval de race, comme un triomphateur romain qui entrait et qu'on fêtait à Rome, vous savez, monté sur le char César avec tous les prisonniers derrière. Et bien voilà, le roi de gloire entre sur un petit âne. Le roi Jésus retrouve son humble ami aux longues oreilles et au souffle chaud qui a veillé sur lui à sa naissance. Et l'évangile de Matthieu, rappelant la prophétie du prophète Zacharie, dit « Dites à la fille de Sion, ça c'est la prophétie de Zacharie, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. » Et nous chantons, lorsque nous entrons à la fin des lots, dans la fête des rameaux, rappelez-vous, on frappe à la porte, et nous chantons « Gloire, honneur, louange à toi, ô Christ, roi rédempteur, auquel un cœur d'enfant, etc. » Voilà, je pense que je dois m'arrêter à 2h15, hein, il est 2h15. À tout à l'heure, pour la suite et la fin. Merci.